Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les médecins qui reçoivent des cadeaux de laboratoires pharmaceutiques ont tendance à faire des prescriptions plus chères. N'y voyez pas une relation de cause à effet, mais un lien à minima. Voilà ce que dit l'étude inédite française que nous détaillerons dans un instant.
Et puis vous entendrez ensuite la réaction des professionnels. Après l'annonce de quotas d'immigrés pour travailler en France, le détail des mesures sera donné ce matin.
Donald Trump tremble un peu plus en pleine enquête pour une procédure de destitution. Un diplomate américain reconnaît avoir fait chanter l'Ukraine pour avoir des informations sur Joe Biden.
L'enquête se tourne vers le Vietnam après la découverte de 39 corps dans un camion frigorifique près de Londres. Nous vous décrirons ce réseau de passeurs peu connu, très organisé.
Et puis après cette édition, le billet politique, Frédéric Seyss se demandera ce matin pourquoi Marine Le Pen reste silencieuse. Plus un médecin généraliste reçoit de cadeaux de la part de laboratoires pharmaceutiques, plus ces ordonnances sont coûteuses pour la sécurité sociale et de moindre qualité. Voilà en substance le résultat de la première enquête qui porte sur ces liens en France. Elle est publiée ce matin dans le British Medical Journal. Une équipe de chercheurs de l'université de Rennes 1, du CHU de Rennes et de l'INSERM s'est penchée sur les prescriptions de plus de 41 000 généralistes. Elle ne parle pas de causalité, mais de lien entre cadeaux et ordonnances. Elle a croisé pour cela deux bases de données, Tara Schlegel.
Depuis 2017, les laboratoires doivent déclarer les cadeaux qu'ils octroient. Les chercheurs ont donc pu diviser les généralistes en six groupes, allant de ceux qui n'ont rien touché depuis 2013 à ceux ayant touché plus de 1000 euros en 2016. Parallèlement, les chercheurs ont eu accès pour chaque médecin à ses prescriptions grâce au système national des données de santé. Que voient-ils ? D'abord que ceux qui n'ont rien reçu font des ordonnances qui coûtent en moyenne 5 euros de moins à la sécurité sociale que les plus gâtés. Ensuite, que ces médecins proposent moins de médicaments dont les risques sont considérés comme élevés, explique Bruno Goupil, le premier auteur de l'étude, qui tient d'abord à cette précision.
Je suis médecin généraliste. Ce qui est important à dire de moi, c'est que je déclare aucun lien d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques. On a deux exemples où les médecins qui n'ont jamais reçu de cadeaux, ils prescrivent en moyenne moins de médicaments de type vasodilatateurs qui sont déconseillés par l'assurance maladie, et aussi moins de médicaments de type benzodiazépines, qui sont des anxiolytiques qu'on utilise contre les troubles du sommeil ou l'anxiété, pour des durées de plus de 3 mois.
Ces benzodiazépines provoquent effectivement parfois des amnésies, des risques de chute, et les autorités sanitaires veulent limiter leur usage. Troisième enseignement, les médecins du groupe Aucun cadeau prescrivent aussi plus d'antibiotiques génériques que leurs confrères. Pour l'instant, les chercheurs refusent de parler de cause à effet. Dans l'étude, ils notent un lien entre les sommes dépensées par les labos et les prescriptions. Il pourrait y avoir, disent-ils, une autre cause qui expliquerait ces biais et qui n'a pas encore été analysée.
Au chapitre santé encore et lien de causalité, les familles de bébés nés sans main ou sans avant-bras ont appris hier que le comité de suivi et d'orientation ne se réunira plus. Créé il y a un an face aux interrogations de ces familles dans l'Ain, en Bretagne et en Loire-Atlantique, ce comité ne peut plus, selon les autorités, apporter de réponse à ces familles car les scientifiques n'en ont pas, selon les autorités. Le mystère des bébés nés sans main à Guidel en Bretagne, c'est une enquête extrêmement détaillée avec documents et témoignages que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. La mesure sera officialisée ce matin. Des quotas ou des objectifs chiffrés d'immigrés professionnels seront fixés l'année prochaine en France. Paris doit en effet recruter en fonction de ses besoins de travail. Voilà ce que disait la ministre Muriel Pénicaud hier. Ce matin, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui l'officialisera après un conseil interministériel sur l'immigration. Mais déjà, les premières réactions des organisations patronales hier étaient très mitigées, Annabelle Grelier.
Pour la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, le système de quotas est plutôt bien accueilli. Il permettrait d'éviter de faire venir des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer en ne trouvant pas d'emploi, estime son président François Asselin. Pour les artisans et entreprises de proximité de l'UDP, il vaut mieux l'instauration de quotas qu'une immigration totalement ouverte. Son président Alain Griset estime tout de même que la priorité absolue serait de remettre au travail tous ceux qui sont actuellement au chômage avant d'envisager une immigration spécifique. En revanche, pour Franck Drouet du groupement national des très indépendant, l'arrivée de plusieurs milliers d'immigrés ferait un appel d'air. Et cela ne va pas prendre le boulot des Français, affirme-t-il. Bien au contraire, cela évitera à des établissements de devoir fermer et donc supprimer des services faute de personnel. Même ton du côté de l'UMIH, l'Union des métiers et d'industrie de l'hôtellerie. Son président, Roland Egui, n'aime pas beaucoup les quotas. Le secteur, dit-il, est prêt à embaucher 100 000 personnes, qu'elles soient françaises ou étrangères. Enfin, pour le président de la Fédération française du bâtiment, Jacques Chanu, un système de quotas n'est certainement pas la solution idoine. Pour le bâtiment, la priorité du gouvernement doit rester la réforme de la formation professionnelle. Quand la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, estime qu'il faut au moins s'assurer que ces immigrés économiques suivent une formation et puissent s'exprimer dans notre langue.
Voilà pour ces réactions bien différentes, on l'a compris, en fonction des professionnels. Alors qu'hier, dans le même temps, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les réactions allaient quasiment toutes dans le même sens. Gauche et droite se montrent critiques sur le délai de carence de 3 mois pour accéder à la PUMa, la sécurité sociale de base, sur les justifications à apporter pour bénéficier de l'aide médicale d'État. Cela ne va pas assez loin pour la droite. La gauche, elle, dénonce une précarisation des demandeurs d'asile. Et même la majorité est sceptique. Le député La République En Marche du Vaucluse, par exemple, Jean-François Cesarini, estime que certaines de ces mesures n'étaient pas forcément nécessaires.
Lutter contre le Front National, bien sûr qu'on est là pour lutter contre. C'est pour ça qu'il faut parler d'immigration. Mais après, derrière, effectivement, tout le jeu politicien, c'est à nous aussi à le dire, quand c'est inutile. Bon, l'AME et la PUMa, je trouve ça un peu dommage. L'AME, 80% des gens en situation irrégulière qui sont sur le pays ne demandent pas l'AME. Ça, on dit, comprenez, c'est un appel d'air incroyable, les gens viennent se faire soigner. Ben non. Et puis sur la PUMa, c'est pareil. Qui sait ce que c'est que la PUMa dans la rue, quoi? Je veux dire, personne. Je veux dire, l'électorat de Le Pen est beaucoup plus déterminé par des questions franco-françaises qui sont issues des banlieues, chômage, radicalité, délinquance, etc. qui sont, oui, c'est des musulmans, mais français depuis 3, 4, 5 générations. Ça n'a rien à voir avec les politiques migratoires. Donc je dis attention de ne pas se tromper de cible. C'est très bien de parler d'immigration économique, mais effectivement, il y a quelques mesures là-dedans qui, à mon avis, ne changeront rien. Et c'est dommage parce qu'en gros, on veut bien faire un effort des fois pour lutter contre le front. Mais là, un, on lutte pas contre le front. Et deux, on se renie sur des valeurs.
Des propos recueillis par Stéphane Robert. Immigration, va-t-on vers une refonte de la politique d'accueil française? Le débat reprendra après ce journal avec Guillaume Herner et ses invités dans les matins de France Culture. D'ici là, notons ce CHCT extraordinaire organisé aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale. La souffrance au travail sera au cœur de cette réunion, un mois et demi après le suicide de Christine Renon, directrice d'école à Pantin en Seine-Saint-Denis. Les tâches de ses directeurs se sont multipliées ces dernières années. Et d'ailleurs, ce matin, une étude du SNES, syndicat du second degré, le confirme. 73% des personnels d'éducation en France estiment que leur santé s'est dégradée à cause de leurs conditions de travail ces derniers mois. Le Front National et son entourage ont-ils financé les campagnes électorales entre 2012 et 2015 grâce à des escroqueries au préjudice de l'État? Un procès doit répondre à cette question. 7 protagonistes de l'affaire, dont 2 cadres du parti, comparaissent à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris, Antoine Marette.
3 personnes morales sont poursuivies dans cette affaire. Le Front National, devenu le Rassemblement National en 2018, le micro-parti Jeanne et la société de communication Riwal. Riwal qui est soupçonné d'avoir surfacturé du matériel de campagne aux dépens de l'État, des kits de campagne obligatoires comprenant des tracts, des affiches et un site internet que les candidats FN aux législatives devaient acquérir pour la somme de 16 650 euros pièce. Il contractait pour cela un prêt auprès du micro-parti Jeanne. Au cœur de ce dossier, Frédéric Chatillon, cet ancien responsable du GUD, est un proche de Marine Le Pen. Il est accusé d'avoir mis en place un véritable système frauduleux pour aider le FN en proie à des difficultés récurrentes de financement et d'en avoir profité au passage pour s'enrichir au détriment de l'État. Son associé Axel Lousteau est également poursuivi, tout comme l'eurodéputé Jean-François Jalque pour escroquerie. Le trésorier du FN, Valran de Saint-Just, est quant à lui poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux. Dans l'autre volet de cette affaire, Jean-François Jalque, le micro-parti Jeanne et Frédéric Chatillon vont également être jugés pour des montages financiers semblables, cette fois-ci lors des municipales et des européennes de 2014 et lors des départementales de 2015.
Au Modem, trois personnalités pourraient bientôt être mises en examen. François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard. Tous les trois sont convoqués en décembre prochain dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants d'europarlementaires.
8h09 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Le dossier pour destituer Donald Trump s'alourdit.
Un témoignage accablant est venu s'y ajouter hier, celui de l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne. Il reconnaît avoir conditionné une aide financière pour l'Ukraine, l'avoir conditionné à l'ouverture d'une enquête sur Joe Biden, le rival politique de Donald Trump. Une déclaration assez inattendue, Grégory Phillips.
Le 17 octobre dernier, Gordon Sondland avait été entendu pendant près de 10 heures par une commission conjointe de la Chambre des représentants. Mais aujourd'hui, l'actuel ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne explique que les autres témoignages recueillis par le Congrès lui ont rafraîchi la mémoire. Et donc, dans un courrier de 4 pages adressé aux parlementaires, il reconnaît que l'administration Trump a bien proposé au gouvernement ukrainien un échange de services, la livraison de l'aide militaire américaine, 390 millions de dollars, contre une enquête sur la compagnie gazière Burisma, employeur du fils de Joe Biden. Ce nouveau témoignage est accablant, d'autant plus que Sondland est considéré comme un très proche de Trump, dont il a même financé la campagne en 2016. La pression sur la Maison-Blanche ne cesse de monter. Les démocrates veulent désormais entendre Mick Mulvaney, le directeur de cabinet du président, mais qui normalement ne devrait pas répondre à cette convocation.
Le président américain, qui par ailleurs avait confirmé en début de semaine que les États-Unis entamaient leur retrait de l'accord de Paris sur le climat, eh bien en guise de réponse, le président français Emmanuel Macron a lui réaffirmé ce matin avec son homologue chinois leur soutien à cet accord climatique irréversible, disent-ils. À cette occasion, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Pékin par ailleurs, le pouvoir chinois a affirmé ce matin avoir signé pour 15 milliards de dollars de contrats avec la France. Elles ont d'abord été prises pour des Chinois, mais sont aujourd'hui considérées comme probablement vietnamiennes par les autorités britanniques. 39 personnes étaient mortes dans un camion frigorifique retrouvé il y a 2 semaines près de Londres. Depuis, l'enquête a permis d'interpeller au Vietnam 8 suspects, qui sont donc suspectés d'appartenir à un réseau très structuré de traite des êtres humains, Julie Pietri.
La filière vietnamienne, c'est un monde à part, très criminalisé, extrêmement bien organisé, confie un policier haut placé qui décrit des migrants qui voyagent la peur au ventre, qui peuvent être battus et qui ne parlent de leur situation presque jamais. Des pêcheurs, des agriculteurs, petits commerçants, issus le plus souvent de provinces pauvres du Vietnam, détaille Nadia Sebtaoui, membre de l'ONG américaine Pacific Links Foundation.
Pour eux, la seule solution est de partir en Europe pour obtenir un job qui puisse être correctement payé et subvenir aux besoins de l'ensemble de leur famille.
Le trajet est souvent le même, piloté depuis de pseudo-agences basées en Angleterre. Un vol en avion de Hanoï à Moscou, visa tourisme, puis un long trajet à pied et en camion à travers l'Europe pour enfin rejoindre le Royaume-Uni. Violaine Husson de la CIMADE a travaillé avec des mineurs vietnamiens placés en rétention en France après leur arrestation.
La plupart d'entre eux se rendaient en Angleterre pour devenir jardinier et ou pour les filles travailler dans des salons d'onglerie ou de massage. On a appris et découvert que ces enfants étaient en fait attendus notamment pour travailler dans des fermes à cannabis pour l'exploitation du cannabis.
Des migrants adultes se retrouvent aussi exploités dans ces fermes, en fait des maisons où le cannabis est cultivé clandestinement sous des lampes chauffantes. Ils espèrent ainsi rembourser une dette de voyage exorbitante, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quant au risque pris, notamment à Calais en montant à bord de camions frigorifiques par exemple, ils n'ont pas vraiment le choix, commente encore une source policière. Les passeurs les guides font sauter devant eux les protections des camions stationnés sur des parkings. Ils obéissent et montent à bord au péril de leur vie.
Partons maintenant sur les bords du Nil où se joue une crise autour des ressources en eau de l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie veut construire sur le principal affluent du Nil un barrage le plus grand d'Afrique à la hauteur de ses rêves de développement. Une réunion est prévue ce mercredi à Washington car l'Égypte craint de perdre sa part des eaux du Nil, Martin Roux.
90% de son approvisionnement en eau en dépend. Le Nil est une ligne de vie qui sillonne ce pays désertique. 98% de la population égyptienne vit sur les rives du fleuve. Pour l'Égypte, il est question de survie dans le conflit diplomatique qu'il oppose à l'Éthiopie depuis plus de 8 ans. Lorsqu'Addis Abeba pose la première pierre du barrage en 2011, l'Égypte connaît cette même année une révolution, puis 2 ans plus tard un coup d'État. Le Caire regarde ailleurs alors que la construction du barrage se poursuit. En 2015, 2015, les deux pays et le Soudan parviennent ensemble à un accord de principe, mais le Caire réclame aujourd'hui qu'il soit contraignant pour assurer sa part des eaux du fleuve, un gage de stabilité nécessaire, estime le chercheur Timothy Caldas.
Si l'Éthiopie décide de remplir le réservoir en peu de temps, cela pourrait gravement perturber l'approvisionnement en eau de l'Égypte. Cela peut conduire à une crise, car nous nous trouvons dans un pays de 100 millions d'habitants. C'est aussi un pays pauvre, donc le dessalage n'est pas non plus une solution réaliste financièrement.
Avec près d'1,6 million de naissances par an, la population égyptienne s'est gonflée de 18 millions d'habitants entre 2010 et 2018. Le pays doit donc relever le défi de la gestion de ses ressources en eau. Le barrage éthiopien rend plus urgent le problème, mais déjà, le réchauffement climatique accroît l'évaporation des eaux du Nil. Selon les Nations Unies, le pays pourrait atteindre le seuil de pénurie d'eau d'ici 2030.
Et pour en savoir plus sur ce conflit diplomatique entre l'Égypte et l'Éthiopie, retrouvez les enjeux internationaux consacrés au Nil bleu, c'est en podcast, ou sur franceculture.fr pour ces enjeux internationaux. Seul le sud-est de la France sera ensoleillé aujourd'hui. Partout ailleurs, les averses vont ponctuer la journée sous des températures de saison, avec ce matin 9 degrés à Besançon, 10 à Lille, 12 degrés à Nantes, Paris et Lyon, et 17 degrés sous le soleil de Toulon.